9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé, ça me fait plaisir tous les matins de parler de votre santé, d'en parler avec vous, de santé, de bien-être dans cette émission jusqu'à 10h. Et nous allons parler d'alimentation aujourd'hui avec mon invitée, elle s'appelle Anne-Charlotte Garret. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes diététicienne, nutritionniste et croqueuse de bonnes idées, membre d'un réseau qui s'appelle Resendo, qui est spécialisé dans la prise en charge de l'endométriose, notamment dans le but d'aider à diminuer et soulager la douleur, hein, c'est ça ?
Tout à fait, c'est tout à fait ça.
Donc, c'est des professionnels de santé qui sont dans Resendo essentiellement ?
Oui, tout à fait. Ce réseau en fait permet de regrouper, alors au départ c'était un réseau qui était plus au niveau de Paris et sa région parisienne, maintenant ils l'ont un peu plus étendu, et donc on peut retrouver un annuaire avec tous les professionnels de santé, donc aussi bien diététicien nutritionniste, mais aussi des gynécos qui ont l'habitude en fait, qui sont spécialisés dans l'endométriose. On va retrouver des kinés, des sophrologues, des sages-femmes, voilà, c'est assez large, et aussi des sexologues par exemple.
Mmh. Voilà, c'est pour une prise en charge complète. On l'a vu, on a fait plusieurs émissions sur l'endométriose, mais il y a une médecine complémentaire qui fonctionne, hein, en tout cas pour soulager la douleur. Et donc voilà, donc c'est un peu holistique tout ça.
Oui.
Alors vous publiez vous justement soulager l'endométriose grâce à une alimentation anti-inflammatoire, chez Larousse. À noter que sans trahir un secret, vous êtes vous-même concerné.
Tout à fait. Je suis également atteinte d'endométriose. Donc comme pour beaucoup, j'ai été diagnostiquée très tard à l'âge de 29 ans.
Ça a pris combien de temps ?
29 ans. Donc on va dire que ça a pris. L'errance médicale, elle a duré au moins 14-15 ans, à peu près.
Ah ouais ?
Ouais, en ayant vu à peu près 5 ou 6 gynécos. Ouais.
D'accord. Donc là, vous avez compris qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passait dans votre corps.
Ouais.
Vous avez essayé beaucoup de choses avant de vous intéresser à l'alimentation ?
Alors, déjà de par mon métier, j'avais déjà des intolérances alimentaires et je me dis, c'est bizarre, il y a des choses qui sont pas normales quand je consomme aussi un aliment. Et puis, c'est une amie qui m'a dit, écoute, je pense que tu dois avoir la même chose que moi. Et c'est elle qui m'a orientée justement vers sa gynéco et c'est elle qui m'a fait le diagnostic.
D'accord. À l'époque, on parlait déjà d'endométriose ou pas encore ?
Je ne connaissais pas du tout ce que c'était.
Ouais, d'accord. Ouais.
Donc, en tout cas, là, à l'heure actuelle, en 2022, c'est vrai qu'on en entend parler beaucoup, de plus en plus, en tout cas, c'est vrai que ça interpelle. Mais, en tout cas, il y a 5-6 ans, quand moi j'ai été diagnostiquée, je connaissais j'avais entendu parler, mais pas plus que ça. Mmh.
Et qu'est-ce qui vous a amené à l'alimentation anti-inflammatoire ?
Alors, pour moi, déjà dans mon métier, j'estime que quand on est atteint d'une pathologie, l'alimentation a toujours un intérêt, elle a quelque chose à apporter. Je le vois déjà dans les prises en charge que je fais. On va apporter un mieux-être déjà, et puis l'alimentation aussi va permettre de limiter ou d'éviter aussi certaines conséquences sur l'organisme. Donc je me suis dit, c'est obligé que quand on est atteinte d'endométriose, il y a automatiquement quelque chose à faire sur l'alimentation.
Mmh.
Donc je me suis déjà informée dans un premier temps de savoir ce qui pouvait être fait autour de ça. On n'a pas beaucoup de documentation, mais là ça commence à arriver de plus en plus. Et ensuite je me suis formée. Voilà, il y a aussi l'acceptation de la pathologie en tant que patiente, parce que je suis passée par là aussi. De comprendre, voilà, d'avoir enfin des réponses à toutes les questions qu'on se posait. Et puis, le chemin a fait... Ça s'est fait tout doucement et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et on est très peu de diététiciens, diététiciennes à être formés aussi sur ça.
Voilà, aujourd'hui vous êtes très très rare.
Ouais.
Alors, globalement, vous êtes formé sur l'endométriose, mais sur l'alimentation anti-inflammation, hein, donc
oui.
Qui concerne d'autres pathologies que l'endométriose, hein, il faut dire. C'est en ça que votre livre est intéressant.
Ouais.
Alors, on va pas expliquer globalement ce que c'est que l'endométriose, mais pour être rapide, c'est une maladie hyper-œstrogénique. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que automatiquement, en fait, on a les œstrogènes qui sont très importants en fait dans le corps de la femme et qui, bien évidemment, fluctuent aussi en fonction des cycles menstruels. Donc, ça va varier au moment des règles, ça va varier au moment de l'ovulation, voilà.
Donc il y a plusieurs types, hein, d'œstrogènes.
Oui.
Les œstrogènes sont digérés par le foie. Mm. Mais dans votre partie, et c'est ça qui est intéressant, est-ce que l'alimentation a une influence sur les œstrogènes ?
Tout à fait. En fait, l'alimentation va à la fois jouer sur le côté inflammation et sur le côté œstrogène aussi, c'est-à-dire que l'un comme l'autre s'influence entre les deux. Et l'alimentation, ce qu'on va apporter, c'est que ça va être surtout pour diminuer cette activité œstrogénique et automatiquement, ça va diminuer les douleurs et aussi indirectement ou directement, ça va également diminuer l'inflammation.
Donc, ça veut dire qu'avec un régime, je ne sais pas comment vous l'appelez.
Alors maintenant, on ne parle plus du tout de régime parce que régime, ça veut dire restriction.
D'accord, bon.
Là, on parle plus d'alimentation thérapeutique. On peut parfaitement avoir une alimentation équilibrée en faisant de l'anti-inflammatoire, en
D'accord.
fait.
D'accord. C'est ça que vous proposez dans votre méthode.
Tout à fait, oui.
Et donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une alimentation thérapeutique qui traite de l'endométriose?
Elle est protectrice. En fait, l'intérêt de ce type d'alimentation, c'est de limiter déjà les douleurs, de diminuer la fatigue, mais aussi de limiter et diminuer tout ce qui va être trouble digestif, parce que ça, il y en a énormément pour les femmes qui sont atteintes d'endométriose. Et c'est aussi souvent les raisons pour lesquelles elles consultent un diététicien par rapport à ça. Donc l'intérêt de tout ça, c'est de diminuer ces différents symptômes pour pouvoir gagner en confort de vie. Mmh. Et l'alimentation, justement, c'est un maillon qui fait partie d'une chaîne d'assemblage. Et c'est un des maillons qui va aider en tout cas à diminuer tout ça, parce qu'on a d'autres médecines douces, alternatives, complémentaires qui peuvent aider aussi en plus de ça. Mmh.
La star là, de ces derniers mois, le microbiote, est-ce qu'on a étudié le microbiote des personnes qui souffraient d'endométriose?
Tout à fait, ouais. On sait qu'une bonne partie, on va dire quand même un bon 90% des femmes qui sont atteintes d'endométriose ont un microbiote qui est quand même déséquilibré. C'est-à-dire que la consommation de certains aliments vont faire qu'on va avoir des intolérances. Donc, ça peut provoquer des troubles digestifs, sous quelle forme qu'ils soient, donc des vomissements, des diarrhées, des ballonnements, des choses comme ça. Ça peut également provoquer des migraines, accentuer le stress, l'anxiété, la dépression également. Ça, et pourtant, ça vient du microbiote.
D'accord. Et donc, ça aussi,
ça va augmenter les douleurs d'endométriose, ouais.
Parlez-nous un petit peu du principe de l'inflammation en cas d'endométriose. En quoi est-ce qu'elle consiste, cette inflammation?
Alors, déjà, l'inflammation, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une réaction immunitaire que le corps a pour se défendre, c'est-à-dire qu'il réagit à quelque chose qui n'est pas normal, donc il se défend. Donc, suite, ça peut être une infection par rapport à des bactéries, des virus, etc. Ou alors un intrus qui est rentré. Donc là, c'est l'inflammation qui s'active. Et puis, donc automatiquement, c'est pour pouvoir l'atténuer. Ce qui se passe dans l'endométriose, c'est que c'est une maladie inflammatoire, mais qui est chronique. Mmh. C'est-à-dire que...
C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est débarrassé de l'agresseur, l'inflammation reste?
Alors non, c'est durant l'inflammation aiguë, c'est-à-dire qu'on essaye de combattre un petit peu tout ça, au bout d'un moment, ça devient trop... Ça devient trop important, où le corps n'a pas suffisamment en fait de bagages ou d'éléments pour pouvoir l'aider à vraiment arrêter cette inflammation. Et c'est là qu'en fait ça devient de plus en plus important et on part sur une inflammation chronique.
Donc qui est permanente en fait.
Qui va être permanente, qui va aller se loger un petit peu partout aussi. Sur l'endométriose, c'est ça, c'est les lésions qui vont un petit peu se loger partout. Et dès qu'on va la réveiller, l'inflammation, automatiquement, les douleurs se réveillent.
Et un dernier élément médical que je voudrais évoquer avec vous, c'est ce qu'on appelle le stress oxydatif.
Oui.
Schkoun, le stress oxydatif, et comment on le combat?
Alors, le stress oxydatif, ça c'est, on va dire, un processus normal que le corps fait, justement, parce que notre corps, nos cellules fabriquent de l'énergie pour qu'on puisse, que les organes puissent fonctionner correctement, qu'on puisse avoir de l'énergie, etc. Et en fait, dans ce phénomène-là qui se passe quand les cellules produisent de l'énergie, on va avoir un phénomène où on va avoir une molécule qui va être larguée, une ou plusieurs molécules, mais c'est des molécules qui sont endommagées. Donc ça, c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on appelle des radicaux libres. Et donc ça, ces radicaux libres, plus on les accumule dans le corps, et c'est ce qu'on appelle en fait le stress oxydatif. Et pour pouvoir le contrer, on a besoin d'antioxydants. Et donc, il faut aussi avoir un équilibre entre les deux. C'est-à-dire que l'inflammation, elle va justement aider à augmenter ce stress oxydatif également. Donc, d'où l'intérêt d'amener des antioxydants via l'alimentation. Mais après, le corps en fabrique aussi. Mais parfois, ce n'est pas suffisant.
Mais on peut se supplémenter, on peut avoir une alimentation qui est riche en antioxydants. Bon, si j'ai bien compris votre livre, c'est manger des fibres, manger des fibres, manger des fibres.
Oui.
C'est ça.
C'est ça.
Et des pommes.
Pas que. Non.
Non, ça c'est vous. Non.
Non. Non, bon, après on va revenir un petit peu de tout.
On va revenir sur l'alimentation, voilà, qui justement combat cette inflammation. Vous publiez Soulager l'endométriose grâce à une alimentation anti-inflammatoire. Pardon, votre éditeur, c'est Larousse, et vous êtes notre invité jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors, il existe une alimentation adaptée à l'endométriose. On en parle ce matin avec mon invité qui s'appelle Anne-Charlotte Gardet. Vous êtes diététicienne nutritionniste et vous publiez Soulager l'endométriose grâce à une alimentation anti-inflammatoire aux éditions Larousse. Rappelez-nous la différence entre une diététicienne et une nutritionniste.
Alors, le terme nutritionniste, en fait, on peut justement faire une formation de 2 jours et se dire nutritionniste, donc ne pas forcément avoir tous les bons éléments. Un médecin peut être nutritionniste en passant effectivement un diplôme, et puis après on peut avoir tout ce qui est coach en nutrition. Et là par contre, effectivement, sur la formation, on ne sait pas trop non plus ce qui est abordé. Diététicien, en fait, on a un diplôme qui est reconnu en fait par l'État. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 2 ans, alors soit par voie BTS ou DUT, là, c'est en train d'être remanié sur la voie DUT. On étudie aussi tout ce qui est vraiment la connaissance des aliments. On a tout ce qui est la physiologie, la physiopathologie. C'est-à-dire que quand un médecin nous parle d'une pathologie pour un patient, avec tous les termes médicaux, il faut qu'on sache exactement ce que le patient il a pour pouvoir adapter justement l'alimentation derrière, et adapter aussi s'il y a besoin sur des menus spécifiques, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on a cette connaissance qui est là, qui est reconnue par l'État.
Bien. Et en plus, vous avez une formation adaptée à l'endométriose.
Tout à fait.
Bon, cette alimentation, par quoi on commence ?
Alors, justement, c'est tout l'intérêt du livre. C'est justement de dire, alors, attention, oui, il y a plein de choses à mettre en place, mais on y va vraiment déjà à son rythme, pas forcément au rythme de la voisine, parce que la voisine, elle n'a pas non plus les mêmes habitudes alimentaires, c'est surtout ça. Donc, par quoi on commence ? Ce que moi, je remarque aussi dans mon expérience, dans les consultations que j'ai avec les patientes, c'est surtout que, pour certaines, c'est très compliqué d'intégrer des légumes. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, et ce que je conseille aussi toujours, qu'on dit c'est quoi le premier conseil à donner, c'est d'essayer d'intégrer un petit peu plus de légumes cuits et aussi du cru, mais quand même pas mal de cuits, parce que dedans on a des fibres, et ces fameuses fibres vont pouvoir aider à diminuer l'activité des œstrogènes. Donc ça va être un des points assez importants.
Voilà, dont on parlait tout à l'heure. Vous insistez vraiment sur le fait que chaque femme est unique, chaque endométriose est unique, et que chaque femme doit avoir son propre alimentation. J'ai enlevé le mot régime, mais c'est vraiment chacun, c'est du sur-mesure, c'est pas du prêt-à-porter.
Hein. Ouais, c'est du sur-mesure, c'est-à-dire que dans le livre, on a des conseils de base, on va dire généraux, mais c'est pas dit qu'il y en a une. Oui, il faut consommer par exemple des légumineuses, les pois chiches par exemple. Et puis certaines vont pouvoir tolérer peut-être l'équivalent de 2 cuillères à soupe, et d'autres pas du tout, ou d'autres un peu plus. Donc ça, justement, on l'adapte à chacune. Et de toute façon, on en discutait aussi tout à l'heure. On ne peut pas comparer une endométriose à une autre, parce que le ressenti sur l'intensité des douleurs est variable d'une femme à l'autre. Chacune va aussi adapter sa façon de gérer la douleur, et ça c'est sur le ressenti de son corps, et on peut pas non plus, on peut pas les comparer, on peut pas dire j'ai une endométriose qui est extrêmement importante alors qu'elle peut être très douloureuse pour celles qui ont très peu de lésions, qui sont avec des micro-lésions par exemple.
Alors, est-ce qu'il y a déjà des aliments à éviter ?
Alors, ceux qui sont à éviter, ça va être tout ce qui va être la viande rouge, parce qu'on sait que ça va être assez pro-inflammatoire, ça va vraiment stimuler l'inflammation. Après, tout ce qui va être aussi le gras saturé, les graisses saturées, donc ça, on le retrouve souvent dans le gras animalier, dans certaines huiles aussi, par exemple l'huile de coco qu'on... on dit souvent oui c'est sain, c'est
elle, très à la mode.
C'est très à la mode.
L'huile de coco.
Le problème c'est que c'est une huile qui a une très mauvaise répartition. Donc si on cuisine beaucoup à l'huile de coco, il faut quand même diminuer parce que justement les graisses saturées, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour le corps. Il en a besoin quand même un minimum. Mais le problème c'est que s'il y en a trop, il ne sait pas quoi en faire. Il va aller le stocker dans les graisses, dans les cellules graisseuses, et une certaine partie des œstrogènes est fabriquée dans les cellules graisseuses. Donc automatiquement, en fait, on va augmenter cette activité œstrogénique.
D'accord. Donc, pas de viande rouge, enfin, limiter la viande rouge.
Voilà.
C'est ça. Donc, les gras, quels sont les gras à privilégier?
Alors, les gras à privilégier, ça va être tout ce qui va être oméga-3, par exemple, qu'on va retrouver dans les huiles végétales comme l'huile de lin, de colza, caméline, de chanvre aussi. Il faut varier.
Non, voilà. Mais c'est vrai, à chaque fois qu'on parle des oméga 3, on se retrouve avec des huiles improbables.
Voilà. Mais après, on en trouve aussi dans tout ce qui va être le poisson gras, par exemple. Donc, le saumon, le hareng, les anchois, le maquereau, les sardines aussi. Ça, c'est bien d'en consommer une fois par semaine. Parce qu'en fait, ils amènent un certain type d'oméga 3 que le corps ne peut pas fabriquer. Et donc, le fait de l'apporter régulièrement, ça va pouvoir, en fait, aider le corps à pouvoir fabriquer ces acides gras qui sont dits essentiels. Et qui sont anti-inflammatoires.
D'accord. Donc là, avec cette alimentation, on continue à combattre l'inflammation.
Tout
donc, les oméga-3, quelle autre catégorie donc, qu'on supprime? On a vu la viande rouge, les gras, ouais. Quoi d'autre?
Alors, on va avoir aussi le côté sucré. Alors, c'est pas forcément... il faut faire attention sur la qualité de sucre que l'on consomme, mais aussi la quantité. Par rapport à la qualité de sucre, c'est-à-dire que on peut très bien consommer un jus de fruits ou une pomme. Dedans, en fait, on a la même quantité de sucre. Le souci, c'est qu'il y a une différence sur l'impact de la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Et automatiquement, en fait, la pomme va mettre plus de temps à être digérée parce qu'elle est en forme solide. Il y a des fibres aussi dedans. Donc l'impact sur la glycémie va faire aussi que ça va pas non plus trop la faire augmenter, comparé au jus de pomme où là, en fait, ben, avec l'extraction du jus, on n'a plus du tout de fibres. C'est du liquide, c'est vite digéré et automatiquement, ça nous fait augmenter le taux de sucre dans le sang, donc la glycémie. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est deux choses. La première, c'est que cette augmentation du taux de sucre dans le sang, notre pancréas, quand il fonctionne bien, il envoie justement de l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui permet de remettre justement notre glycémie dans un taux normal. Rien que le fait d'envoyer pas mal d'insuline, en fait, l'insuline, elle est pro-inflammatoire. Donc déjà, on agit sur l'inflammation. Et quand on a tendance à manger des choses qui sont beaucoup trop sucrées, le corps, il n'a pas forcément de stock pour ce type de sucre qui est vite digéré, des sucres simples la plupart du temps. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Les seuls endroits où il peut stocker, la plupart du temps, c'est dans les cellules graisseuses. Donc, il va les transformer sous forme de graisse et pouf, il va aller stocker ça dans ses cellules graisseuses. Et donc, automatiquement, on augmente aussi l'activité des œstrogènes.
Donc ça, c'est pour les sucres. Vous voyez autre chose? Il y a une question qui revient souvent, parce que souvent, quand vous regardez sur Internet, on vous conseille de supprimer les produits laitiers.
Tout à fait, oui. Alors, les produits laitiers, ce ne sont pas des choses qu'on va demander de supprimer dans un premier temps, mais d'abord de limiter. Première chose, c'est tout simplement... Alors, ce n'est pas du tout par rapport au lactose. Le lactose, il n'y a pas d'incidence ou quoi que ce soit sur l'endométriose. Mais par contre, c'est plus une question par rapport aux perturbateurs endocriniens. Puisque, en fait, les perturbateurs endocriniens, ce qui se passe, c'est que l'animal, on prend la plupart du temps donc pour le lait de vache, il va brouter l'herbe aussi. Et automatiquement, les sols, soit ils sont pollués de façon naturelle ou par l'homme, hein, suivant où est-ce qu'ils sont élevés. Et en fait, les perturbateurs endocriniens qui sont mangés par l'animal vont se loger dans le gras de l'animal. Donc c'est pour ça qu'on conseille plutôt donc, de les limiter par rapport aux perturbateurs endocriniens et plutôt prendre limiter en graisse, en tout cas pour les produits laitiers type yaourt, les prendre plutôt à 0%. Du fromage, honnêtement, si on est sur une petite portion de 30 grammes qu'on respecte, c'est-à-dire un huitième de camembert, une fois par jour, ça va. Voilà, c'est juste qu'il faut faire attention.
Vous n'êtes pas une adepte de la chrononutrition, nous l'avons compris tout de suite.
Non, du tout, du tout. Voilà, si une portion de fromage par jour, oui. Après, on peut reprendre un yaourt éventuellement. Mais si on sent qu'effectivement, en consommant des produits laitiers, ça déclenche des douleurs derrière, à ce moment-là, effectivement, on va plutôt le passer en substitut végétal enrichi en calcium. Pour toujours avoir ce côté calcium qui soit là pour justement entretenir.
Quand vous dites substitut végétal, ce sont les fameux yaourts au lait qui n'en sont pas.
Alors maintenant nous ça a changé, on parle plus de lait de soja, de lait d'amande, ouais. C'est passé en jus, voilà, parce que
ce sont des jus,
ouais. Mais il faut faire attention à ce qu'il y ait bien justement du calcium, parce que sinon ça en est complètement dépourvu.
Ce sont des crèmes, sinon c'est pas des yaourts, enfin
même
les
pas
les préparations à base de soja ou de...
Ouais, et puis le souci c'est qu'ils rajoutent aussi pas mal d'additifs, et ça il faut également faire attention, parce qu'il y a des additifs qui peuvent provoquer en plus des troubles digestifs.
Alors justement, quand on parle d'œstrogènes, qu'est-ce que vous pensez du soja ?
Alors, le soja, c'est la fameuse question, voilà, parce que je l'aborde aussi dans le livre. Le soja, justement, il est pas mal conseillé quand on est atteint d'endométriose, parce que ils contiennent en fait des phyto-œstrogènes de façon assez importante. Phyto, ça veut dire plante. Œstrogène, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, il y a des œstrogènes, donc ils miment les œstrogènes qui sont également dans le corps, mais en fait, ils ont une activité qui est beaucoup moins importante. Ils vont vraiment diminuer et affaiblir un petit peu cette activité-là, et c'est ce qu'on recherche. Donc le fait d'en consommer, c'est bien. Après, si on s'aperçoit qu'on n'est pas très bien quand on consomme du soja, là, ça veut dire qu'on a plutôt une intolérance, en fait, au soja. Personnellement, j'en ai une, parce que je sais que ça me provoque, en fait, des migraines. Donc pour le coup, là, moi, je sais que cette intolérance-là, voilà, il faut que je limite le plus possible. Mais chez mes patientes qui consomment du soja, elles remarquent de toute façon aussi un bénéfice en le consommant régulièrement.
D'accord, et vous conseillez de le consommer sous quelle forme, alors, le soja ?
Alors, plutôt ferme, c'est-à-dire, en fait, il faut que ça soit les choses les moins transformées possibles. De toute façon, maintenant, on est plus aussi sur une alimentation...
Sous forme de pouce, en fait, c'est ça ?
Plutôt fou.
Ah, tofu, d'accord.
Ferme, voilà. Ça, c'est plutôt bien dans ce sens-là. Après, quand on arrive sur des sauces aussi un peu soja, où c'est pas mal transformé, des choses comme ça, faut faire attention, parce qu'il y a des ajouts, on le transforme, voilà, cette forme-là de tofu ferme, elle est la plus brute possible aussi.
Ça, c'est important. On en revient au faites-le vous-même.
C'est ça.
Mais consommer au maximum des produits qui sont pas transformés, que vous préparez vous-même.
Voilà, des produits bruts. De toute façon, même pour d'autres pathologies, je le vois avec des patients que j'ai en consultation, en finalité, ça s'approche beaucoup quand même de l'anti-inflammatoire. Et de toute façon, les bases de l'équilibre alimentaire, c'est d'essayer d'aller sur des aliments qui soient les plus bruts possibles, les moins transformés. Voilà.
À noter que dans votre livre, il y a un cahier de recettes.
Tout à fait.
C'est vous qui avez fait les recettes ?
Non, c'est Céline de Souza, avec qui je travaille depuis très longtemps, de base pour la pédiatrie. Parce que je suis spécialisée aussi en pédiatrie. Et donc un jour, elle m'a dit, écoute, moi aussi je suis atteinte d'endométriose. Et elle a commencé un suivi avec moi. Et comme elle est chef de cuisine, elle me dit, non mais faut qu'on fasse aussi un livre. J'ai dit, ok. Donc je lui ai dit, écoute, tu t'occupes de la partie recettes.
Voilà.
Et moi, je m'occupe de la partie
les recettes anti-endométriose. Donc, vous êtes tagine de poulet. Donc, ça commence bien. Il y a du flan de chou-fleur. Enfin, il y a pas mal de... Beaucoup de choses. Hein.
C'est ça. On a essayé d'apporter... il y a un petit côté recette apéro pour les plats, pour les desserts gourmands. Il y a des idées aussi pour les petits-déj.
Il n'y a pas beaucoup de viande, hein, je vous dis tout de suite. Non, il n'y a pas beaucoup de viande dans vos recettes.
Alors, l'intérêt, c'est pas non plus de... Ouais. Parce qu'on peut faire un ajout à côté, c'est-à-dire que c'est un plat d'accompagnement.
D'accord.
Mais à côté, si on veut rajouter effectivement une viande, on peut parfaitement. De toute façon, l'intérêt, c'est ce que je dis, la viande...
Vous, votre chili, il est sans carnet, par exemple.
Oui. Parce que, alors après, on peut faire un ajout de toute façon. Ça, c'est chacune aussi, après, l'adapte aussi en fonction d'elle. Mais une portion protéinée par jour suffit largement, en fait, à couvrir les besoins quand on a une alimentation équilibrée, qu'on a des légumineuses à côté. Voilà.
Soulager l'endométriose grâce à une alimentation anti-inflammatoire, c'est l'alimentation dont on parle ce matin avec mon invité. Elle s'appelle Anne-Charlotte Garré. Votre livre sort chez Larousse.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
On parle parle de l'alimentation anti-inflammatoire aujourd'hui, notamment pour soulager l'endométriose avec mon invité, Anne-Charlotte Garret. Vous publiez Soulager l'endométriose grâce à une alimentation anti-inflammatoire chez Larousse. On a parlé des oméga 3 tout à l'heure, amis, mais on n'a pas parlé des oméga 6 ennemis.
Oui. Alors, il faut qu'il y ait un équilibre, en fait, entre les oméga 3 et les oméga 6. Mais c'est vrai que si on a tendance à consommer un peu trop d'oméga 6, ça va justement, en fait, ils sont pro-inflammatoires. Donc, on va augmenter le côté inflammation. Donc, on va surtout le retrouver dans tout ce qui est huile de tournesol, les huiles de pépins de raisin, etc. Et après, on en retrouve aussi dans tout ce qui va être de base, dans tout ce qui est le gras animalier. Et puis après, on va aussi les retrouver dans tout ce qui va être les transformations en fait industrielles. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir une margarine. En général, de base, ils utilisent des huiles végétales, mais ça devient quand même compact. Et pour avoir aussi ce type de texture, il faut passer par des transformations chimiques.
Les fameux produits trans.
Voilà, les fameux produits trans. Mmh. Et on part en fait sur un aliment qui est, soit alors qui peut être toxique, effectivement, ou alors qui peut être pro-inflammatoire du fait de cette transformation.
Mmh. Donc vous expliquez bien dans votre livre justement comment adopter cette alimentation anti-inflammatoire. Vous dites qu'il faut se fixer des objectifs. C'est-à-dire que ça fonctionne comment en termes d'alimentation?
Alors, pour les objectifs, en fait, c'est de se dire, ok, là, je consomme peut-être un petit peu trop de viande rouge, ou j'ai peut-être pas assez, justement, d'oméga 3 dans mon alimentation. C'est de se dire, là, cette semaine, si je consomme, parce que ça arrive, j'ai des patientes où elles consomment 4-5 fois de la viande rouge dans la semaine, l'objectif, c'est de se dire, c'est pas tout supprimer. C'est pas l'intérêt, en fait, c'est le but de ce qu'on appelle aussi dans le milieu médical l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on s'adapte aussi aux habitudes du patient. Et l'intérêt, c'est de l'amener tout doucement aussi vers une autonomisation de son alimentation pour justement adapter ça à sa pathologie. Donc si ça fait 5 fois dans la semaine, on essaye de négocier, on voit est-ce que 3 ça pourrait être possible. Puis après, on diminue au fur et à mesure. C'est comme l'intérêt aussi d'intégrer des légumes. Des fois, j'ai des patientes, c'est très rare les légumes. Parce qu'il y a aussi la vie de famille qui fait que à la maison, on n'aime pas trop les légumes. Donc du coup, maman n'en fait pas parce que les enfants n'aiment pas ou ils n'en veulent pas. Le tout, c'est vraiment aussi moi de voir comment justement la vie de famille se passe, l'organisation autour de ça et de pouvoir aussi adapter des conseils et des solutions par rapport à ça.
Quelle aide on peut obtenir des compléments alimentaires? Est-ce qu'ils sont nécessaires ou tout est dans l'alimentation?
Dans un premier temps, c'est pas quelque chose que je vais conseiller parce que des fois, il y a pas mal de petites corrections quand même à amener au niveau alimentaire. Et les compléments, en fait, on les amène après. Si, par exemple, je vois aussi que le poisson, c'est compliqué de l'intégrer dans l'alimentation, du fait que ça soit une aversion, on n'aime pas trop ça, je vais justement conseiller d'aller vers un complément où on a des oméga 3, mais après, il ne faut pas non plus prendre n'importe lesquels. Il faut qu'il y ait certains labels où ça nous garantit aussi une huile de poisson qui ne soit pas rance, qui soit quand même stable, qui n'ait pas d'impureté en fait.
Donc on ne fait pas n'importe quoi, on ne se jette pas sur Internet pour acheter ses compléments alimentaires.
Voilà, alors après on peut les commander sur Internet, mais justement à des labos spécifiques, ça je l'indique dans le livre avec quel type de label justement il faut les avoir. Et puis pareil, on peut aussi prendre du curcuma après par la suite pour limiter un peu les crises.
Alors sous quelle forme? Parce que le curcuma, c'est pareil. Il y a une vraie mode du curcuma.
C'est ça. On peut déjà l'intégrer dans son alimentation, alors pas de façon excessive. De toute façon, un aliment qui est consommé de façon excessive, c'est jamais bon de toute façon pour le corps. Il faut que ça soit mis régulièrement, intégré régulièrement, mais dans une quantité tout à fait raisonnable. Donc le curcuma, le gingembre aussi, on peut les intégrer facilement en épices. Après, le curcuma, en complément, il faut faire attention déjà d'avoir encore sa vésicule biliaire, parce qu'en fait, ça sollicite aussi pas mal au niveau digestif. Donc ça, il faut faire attention sur ce type de prise. Mmh. Et il ne faut pas prendre non plus n'importe lequel. Il faut qu'il soit le mieux optimisé le possible, c'est-à-dire pour qu'il soit le mieux assimilé aussi par le corps. Donc là, pour le coup, on a plusieurs on va dire, ce n'est pas des labels, mais un peu type comme le Longvida, où on est sûr qu'on est sur un curcuma qui est bien optimisé.
Vous expliquez dans votre livre que le mode de cuisson a son importance. Oui. Quel est celui qui titille l'inflammation et quel mode de cuisson adopter alors ?
Alors, ce qui va titiller, c'est surtout les cuissons agressives. Donc, là, on termine. Sur la fin de l'été. On a eu les barbecues, les planchas. C'est des cuissons qui sont très agressives. Les grillades et aussi, par exemple, les fritures. Donc ça, justement, c'est quelque chose qui va aller titiller l'inflammation. Donc l'intérêt, c'est d'essayer de limiter. Après, par exemple, l'été, quand on est sur des barbecues, sur de la plancha, le tout, c'est OK, on sait qu'on a ce type de cuisson qui est là. Eh ben, on va essayer de faire des salades avec des légumes, avec des légumineuses. On va essayer de varier, en tout cas, à côté. Parce que parfois, tout ne peut pas être parfait. Ça fait partie aussi des choses de la vie. On ne va pas non plus refuser une invitation à un barbecue parce que justement...
Subitement, on a adopté une alimentation anti-endométriose.
Tout à fait.
Et alors, il y a aussi quand même le cas de ceux qui soit mangent en restaurant d'entreprise ou qui mangent tous les jours dehors. Qu'est-ce que vous conseillez pour ces gens-là ?
Alors ça, après, on va adapter. C'est-à-dire que restaurant d'entreprise, ça va dépendre aussi ce qui est proposé. C'est vrai que si, justement, on arrive quand même... Logiquement, on arrive quand même à avoir des choses qui restent assez équilibrées. Après, si c'est un peu compliqué, on essaye de se rattraper à la fois sur le matin, si on prend un petit déjeuner, et aussi sur le soir. On compense de cette manière-là. Et si après, on prend un déjeuner à l'extérieur, si c'est en restauration, en restaurant, de toute façon, on peut toujours aussi... J'ai fait beaucoup de routes pendant 7 ans, où j'allais à droite à gauche, en fait, chez des patients, et il fallait bien aussi que je puisse me restaurer, et c'était toujours, en fait... Donc... J'ai toujours réussi à trouver le bon compromis. Après, maintenant, on peut aller aussi en supermarché et proposer aussi des salades où il y a le moins d'additifs possible. On arrive toujours à trouver quelque chose qui soit plutôt pas mal. Et au pire, si on peut pas faire autrement, le soir, on essaye d'avoir un repas un peu plus équilibré.
Sur l'hydratation, est-ce qu'il y a des eaux à privilégier ?
Alors, pas spécialement. Il faut plutôt les varier. Je dirais. Après, qu'on aime plutôt le gazeux ou la plate, du moment que ça reste nature, dans l'idéal, c'est bien. Si on a des difficultés pour boire, à ce moment-là, moi, je conseille d'aromatiser avec quelques morceaux de fruits parce que ça reste très naturel, que d'aller sur des eaux qui sont déjà aromatisées ou, on ne sait pas trop sur les arômes et ce qu'ils mettent, en fait.
C'est la base, ça.
Tout à fait.
Une eau aromatisée, est-ce que c'est encore de l'eau ?
Ah, ça dépend aussi quel type d'arôme ils mettent aussi dedans.
Alors, quand on parle d'inflammation, est-ce que le thé ou le café ont une incidence sur l'inflammation ?
Oui, alors on conseille, on recommande pas mal de consommer du thé vert bien infusé, puisque c'est antioxydant. Donc ça, c'est une chose. Par contre, il ne faut pas non plus trop consommer de thé, c'est-à-dire...
Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que les personnes qui ont du thé, ils ont le thermos et toute la journée.
Voilà.
Donc quand vous dites pas trop consommer, ça fait quelle quantité ?
Alors, les recommandations, de toute façon, en général, il faut, chez l'adulte, il faut boire à peu près 1 litre d'eau au global sur la journée. 1,5 litre, pardon. Ce 1,5 litre... On compte tout ce qui va être boisson chaude, donc thé, café, l'eau aussi qu'on rajoute dans la soupe, c'est aussi de l'hydratation supplémentaire, parce que l'hiver, on a tendance aussi à boire un peu moins sur la journée, et du coup, la soupe peut venir compléter. Là où il faut faire attention, c'est sur ces boissons chaudes type café et thé, c'est-à-dire que si je bois 1,5 litre de ça, le problème c'est que déjà c'est diurétique, et le souci c'est que ça risque de faire l'effet inverse, et justement plutôt de déshydrater qu'hydrater. Donc, il faut qu'on ait maximum la moitié, on va dire 750 ml de boissons chaudes, en tout cas pour le coup pour le thé, et de compléter quand même avec de l'eau de boisson normale à côté.
D'accord. Mais l'endométriose a besoin d'hydratation ?
Oui, tout à fait. Déjà, pour qu'on soit, même de façon générale, pour qu'on soit moins fatigué.
Ouais.
C'est surtout ça, parce que ça, c'est la fatigue chronique. Ça, c'est le premier symptôme qui arrive, de toute façon, dans l'endométriose. Et automatiquement aussi pour avoir un meilleur sommeil, pour avoir une meilleure forme, ça va raffermir la peau, etc. Et aussi, ça va permettre aussi d'aider un peu mieux tout ce qui va être les toxines, à ce que les reins puissent bien filtrer comme il faut.
Toute la méthode est dans votre livre, hein, qui s'appelle « Soulager l'endométriose grâce à une alimentation anti-inflammatoire » aux éditions Larousse. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur beurrefm.net et voir la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous.
Ben, merci à vous.
Et passez une très belle journée santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.